Les clés de l'info.
Les clés de l'info.
L'actu au clair.
Chez vous. Sur Radio Toucan.
Bienvenue dans les clés de l'info en compagnie de moi-même Selena et Marie qui est avec moi à la technique. Pendant 30 minutes, nous allons revenir sur des actualités nationales et locales. J'espère que vous allez bien ce soir, chers auditeurs et auditrices. Personnellement, ça ne peut qu'aller puisque ce soir, c'est le week-end. J'espère que vous avez plein de belles choses de prévues. Et pour celles, eux, qui travaillent encore ce week-end, bon courage à vous. On a un temps un peu lunatique cette semaine avec de la pluie mais aussi des éclaircies. Il n'y a pas de doute, le printemps est bien en train de faire sa place en Normandie. Au programme de ce soir, le festival de cinéma et d'ethnographie Altérité débute la semaine prochaine, le 19 mars. Karine Le Petit, ethnologue, chef de l'Ethnopole, et Jean-Claude Lemenuel, ethnomusicologue, ont accepté de présenter l'édition 2026 du festival à Johanna. Ensuite, retrouvez une interview toujours réalisée par Johanna de Mélanie Dallois, coordinatrice du Tympan, afin de nous présenter les événements de jazz Poulet Frit. Mais avant ça, place à mon actu du jour.
L'actu du jour.
L'actu du jour.
Des données satellites américaines analysées par l'AFP, l'agence France-Presse, montrent que la banquise de l'Arctique est sur le point de vivre l'un de ses pires hivers jamais mesurés. Selon les données du NSIDC, National Snow and Ice Data Center, l'hiver 2025-2026 montre que le niveau de reconstitution de la banquise est en dessous de celui enregistré l'an dernier. La glace formée par le gel de l'eau de mer fond naturellement en été et se reforme en hiver, sauf qu'en raison du réchauffement climatique, la proportion dans laquelle elle se reforme est en baisse. L'étendue maximale de banquise cet hiver pourrait être la plus faible jamais enregistrée. L'an dernier, le 22 mars, sa taille maximale était d'une superficie de 14,31 millions de kilomètres carrés. Le 10 mars, le niveau maximal de la banquise s'étendait à seulement 14,22 millions de kilomètres carrés. La Terre a traversé plusieurs fois des périodes glaciaires et en a survécu. La problématique actuelle est qu'aujourd'hui, ce phénomène s'accélère et touche des régions qui avaient jusqu'ici réussi à l'éviter. D'après WWF, World Wide Fund for Nature, en 30 ans, l'augmentation du taux de fonte des glaces a atteint 65%. Cette problématique est due à une hausse des températures mondiales causée par l'homme qui affecte les pôles et l'Arctique. Ces derniers se réchauffent 4 fois plus vite qu'ailleurs sur Terre. En effet, ces 11 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. Toujours d'après WWF, la hausse des températures relevées ces 50 dernières années s'élève à 3 degrés. Plusieurs conséquences sont à prévoir suite à la mauvaise reconstitution de la banquise, selon Samantha Burgess, responsable stratégique pour le climat au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Tout d'abord, des conséquences climatiques qui pourraient menacer les écosystèmes. De nombreuses espèces comme les ours polaires ou les phoques dépendent de l'état de la banquise pour se reproduire et se nourrir. Des effets en chaîne sont à prévoir également, comme une augmentation du niveau de la mer qui entraînerait des inondations et des villes submergées. Des villes submergées par les eaux pourraient conduire à un déplacement de millions de populations liées aux catastrophes naturelles. Ce phénomène est déjà observé en Afrique du Nord, au Maghreb, et en Asie, au Bangladesh, où on observe des pénuries d'eau, de la famine et de la désertification. Et plus récemment, nous avons l'exemple du Honduras, où l'élévation des mers et les ondes de tempête ravagent des zones littorales, au point d'obliger des familles à abandonner leurs terres. Des conséquences météorologiques sont aussi à prévoir, comme des fortes pluies, des sécheresses et des incendies. Nous pouvons déjà observer des conséquences géopolitiques. La diminution de la banquise ouvre l'accès à des ressources minérales et à de nouvelles voies maritimes, ce qui rend ces territoires attractifs pour certains chefs d'État. C'est le cas récemment du président américain Donald Trump, qui souhaite posséder le Groenland. En effet, ces conséquences créent des opportunités importantes pour l'extraction pétrolière, l'exploitation minière de minéraux et d'expéditions scientifiques. Le risque étant qu'une activité industrielle supplémentaire conduirait à davantage d'émissions de gaz à effet de serre qui participent activement au réchauffement de la planète. Comme expliqué précédemment, si cette situation de mauvaise reconstruction de la banquise continue jusqu'à fin mars, Samantha Burgess affirme que l'hiver que nous sommes en train de vivre sera parmi les 5 pires jamais mesurés avec 2025, 2018, 2017 et 2016. Chaque année, à Caen se déroule le festival de cinéma et d'ethnographie Altérité. Karine Le Petit, ethnologue chef de l'Ethnopole, et Jean-Claude Lemenuel, ethnomusicologue, viennent nous présenter l'édition 2026 du festival.
Le festival Altérité est un festival d'ethnographie. Karine Lepetit, vous êtes vous-même ethnologue. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'ethnographie ?
L'ethnographie, c'est le moment où, crucial où on est sur le terrain, où on observe, où on s'imprègne d'une culture et où on observe, enfin où on note. Donc le film, c'est aussi un moyen de faire de l'ethnographie, c'est-à-dire c'est ce que Rouch appelait la caméra stylo, un moyen de noter et de partager ce que l'on observe sur le terrain.
L'ethnographie, c'est l'étude des cultures humaines, mais on peut aussi étudier plus précisément la culture dans un sens artistique. Jean-Claude Lemenuel, vous êtes ethnomusicologue. Comment la musique parle-t-elle aussi de la manière dont on vit sur un territoire ?
Tout d'abord parce que la musique étant un phénomène qui existe partout, sous diverses formes, quelle qu'elle soit, la musique dit beaucoup de choses sur le plan sociétal, historique, artistique, c'est-à-dire qu'à travers effectivement un morceau, son contexte, son environnement, sa raison d'être, on va pouvoir déterminer un certain nombre d'éléments qui vont donner pour partie une explication, en tout cas une vision un petit peu de cet aspect de sociétal, quoi. C'est toujours forcément relié, particulièrement sur les musiques traditionnelles, évidemment.
En quoi il est intéressant de proposer un festival grand public qui encourage à se confronter à l'altérité ?
Alors c'est particulièrement intéressant de tout temps, mais je pense particulièrement en ce moment de rappeler qu'effectivement il y a des sociétés, des cultures différentes, mais aussi une unité du genre humain et une porosité entre ces cultures, c'est-à-dire qu'elles communiquent les unes entre elles, elles s'inspirent les unes des autres et surtout elles évoluent, aucune n'est figée. Et oui, je pense que c'est effectivement très important et on s'adresse au grand public en effet.
Cette année, la thématique du festival est « Hériter et transmettre ». Qu'est-ce que vous souhaitiez explorer à travers cette thématique ?
Alors, c'est une thématique transversale pour l'ethnographie qui est présente en permanence. C'est-à-dire qu'on étudie forcément des cultures qui changent, qui évoluent. Et justement, Jean-Claude Lemenuel sera l'invité du festival en tant qu'ethnomusicologue pour nous présenter Ouanou Diarra, qui est un griot du Burkina, mais qui vit en Normandie. Et qui nous fera vraiment la démonstration, qui est le fil rouge de cette édition, que pour continuer de transmettre une tradition, il faut la faire évoluer.
Oui, voilà, tout à fait. Donc ce sera effectivement le jour de la clôture du festival, le dimanche 22 mars, à l'auditorium de la médiathèque, de la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Et donc l'idée, c'est effectivement une rencontre qui va se passer en deux temps. Le sujet, c'est le griotisme, donc effectivement très très lié à cette notion de présence culturelle en Afrique de l'Ouest. Mais là, on a affaire à un jeune griot qui est complètement issu de cette tradition, qui a grandi avec ça, qui porte cet héritage, mais qui en fait autre chose. C'est-à-dire que son idée à lui, c'est pas de se surjouer, c'est-à-dire qu'il est griot, donc il n'a pas besoin de jouer au griot. Donc en fait, l'idée, c'est que on va essayer de montrer au public comment on part de cet héritage, comment cet héritage se transforme, parce que il y a un changement de territoire, il y a une évolution d'histoire, et comment aujourd'hui en Normandie, lui continue à faire vivre cet héritage qui est le sien, mais sous des formes artistiques qui sont plus contemporaines, qui posent les questions différemment. Et c'est aussi, on va dire, quelque chose de sous-jacent dans le griotisme, parce qu'effectivement, c'est aussi quelque chose qui a considérablement évolué. On n'en est plus aujourd'hui à ces traditions anciennes qui étaient la tradition des hommes, enfin en tout cas dans le domaine musical, puisque ça ne concerne pas que la musique, le griotisme, mais qui perpétuait l'histoire des anciens. Et voilà, donc aujourd'hui, non, on est sur autre chose. Et c'est une manière pour cet artiste de, finalement, dans son travail, c'est une espèce de reflet. Il se met face à lui-même. Et sa musique, c'est un peu ce questionnement de comment les choses se transforment, comment je les porte et comment je les fais se renouveler, parce qu'effectivement, c'est bien la question du renouvellement. Donc, je rappelle que le mot tradition, ça vient du latin traditur, qui veut dire quelque chose se passe au sens de la passation. C'est quelque chose qui n'est jamais figé, qui est toujours en mouvement. Donc pour que ça dure, pour qu'on ne fabrique pas de muséalisation à l'extrême, en fait, il ne faut pas muséaliser, c'est effectivement le support de la création est extrêmement important.
Et est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs et auditrices ce qu'est le griotisme ?
Alors, le griotisme. Alors tout d'abord, il faut savoir que le mot griot, il vient du portugais criado, mais en fait, c'est un mot qui a été apporté, c'est-à-dire que le vrai mot d'origine, c'est le mot djeli, c'est la djelia, la transmission par le sang, c'est-à-dire la lignée. Et en fait, ce griotisme, il peut s'incarner dans diverses choses. Finalement, on pourrait traduire ça par homme ou femme mémoire, homme ou femme mémoire de la tradition. Mais au sens large, on peut avoir affaire à des historiens, on peut avoir affaire à des musiciens, on peut avoir affaire à des hommes qui ont même du poids politique. C'est-à-dire que le griotisme, c'est cette espèce de ce positionnement en fait qui fait le lien entre les différents éléments qui composent cette société et la manière de les transmettre. En fait, le griot, il a à charge cette notion de mémoire, mais dans cette notion de mémoire, il y a bien sûr cette notion de renouvellement, c'est-à-dire qu'il faut aller dans la continuité pour ne pas effectivement figer les choses et les contraindre à ce qu'elles ne seraient plus aujourd'hui par rapport à une réalité sociétale, quoi. C'est toute la question de l'ethnographie.
En quoi le cinéma permet-il d'ouvrir la discussion sur une thématique donnée ?
Il permet de nous immerger, en fait, cette période d'immersion de l'ethnologue sur son terrain. Il peut le partager à travers un film parce qu'on va avoir un rythme particulier, on va avoir des couleurs particulières, on va entendre aussi des langues originales et on va prendre le temps de regarder à l'échelle, à hauteur d'homme, en fait, comment se vit une culture, tout simplement. On va ressentir des choses avant de les analyser.
Il y a deux aspects. En fait, il y a l'aspect effectivement de ce qui va se transmettre en termes de savoir, de connaissances, on va dire, voilà. Mais il y a aussi l'aspect derrière ça émotionnel. Et c'est aussi ça l'appropriation des choses. C'est pas uniquement du savoir et c'est de l'émotion personnelle qui va trouver sa place et qui va s'approprier ce travail sur les documentaires. C'est pour ça que c'est effectivement très important parce que c'est une manière d'impliquer le public dans la réflexion et on sait bien, c'est valable partout, qu'au-delà du son, la notion de l'image, elle est fondamentale, c'est-à-dire pour incarner les choses. D'où la nécessité de ce travail de documentaire.
La musique, elle aussi, elle permet cet échange émotionnel avec le public et donc du coup, susciter l'intérêt ?
Oui, bien sûr. Bah, là, c'est, on va dire, c'est un véhicule très, c'est le véhicule le plus immédiat, hein. C'est évident parce qu'effectivement, derrière cette notion, la musique a toujours cette avantage, je dirais, d'aller chercher un peu immédiatement les émotions. Les gens calquent beaucoup de choses par rapport à ça. Ils calquent aussi de l'image, mais une image intérieure. On parlait de Wahan ou Diarra tout à l'heure. Effectivement, l'idée, c'est effectivement, il va y avoir un premier temps où on va dialoguer ensemble, parce qu'on se connaît depuis des années. Enfin, moi, c'est un artiste que j'ai beaucoup accompagné. On va dialoguer ensemble sur cette question du griotisme, mais dans une deuxième partie, c'est-à-dire immédiatement après cet échange, qui va durer à peu près 45 minutes, la première partie d'échange, qui sera un échange entre nous, mais aussi un peu avec le public, évidemment. Il va y avoir une partie concert solo, sur lequel il va jouer de trois instruments, la flûte Peul, qui est très particulière, puisque c'est une flûte dans laquelle on ne se contente pas de souffler, on peut parler de manière incantatoire, et on peut chanter dans cette flûte. Voilà. Elle a un lien un peu particulier entre le monde du visible et de l'invisible. C'est vraiment un rituel. Le deuxième instrument, ce sera le ngoni, qui est un petit luth très, très emblématique de la tradition des griots en Afrique de l'Ouest, qu'on va retrouver, hein, mais que lui, il utilise de manière très, très personnelle. C'est-à-dire qu'on est dans l'héritage du ngoni, mais il y a des moments où ça pourrait frôler l'héritage de Jimi Hendrix. Voilà. Parce que c'est aussi ça. Et puis le tamani, qui est un petit tambour d'aisselle qui a des fonctions rituelles au départ et que lui va utiliser aussi de manière rythmique, de manière déployée. Donc l'idée, c'est aussi de montrer comment l'individu d'un côté, mais aussi les instruments dont il joue, finalement s'incarnent de manière différente. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un héritage et en même temps, on s'en affranchit sans pour autant renier ses racines.
Merci beaucoup à Karine Le Petit, ethnologue chef de l'Ethnopole, et Jean-Claude Lemenuel, ethnomusicologue, de nous avoir présenté l'édition 2026 du Festival Altérité. J'espère que cette interview vous aura motivé, chers auditeurs. Pour rappel, le festival débute le 19 mars et se termine le 22 mars. C'est le moment de se prendre une pause musicale. Après Demito et son clip incroyable, Théodora nous a sorti un nouveau single cette nuit en attendant son nouvel album. Je l'ai écouté et je peux vous dire que c'est un vrai banger, donc pourquoi se priver ? Miski Toko de Théodora, c'est maintenant sur Radio Toucan.
Chaque fois que les aigus tournent, et tic tac, j'ai trop de liasses pour un petit jiggito. Et puis lui, ça kiffe. demande est-ce que tu m'aimes mon poquito. Fais ta smack, t'as les banditos. Joga, joga, bonito. Dans la city, change de name pour rester incognito.
Le titre Miss Kitoko de Théodora sur le 91.9 FM et nous sommes de retour dans les clés de l'info, l'émission qui traite de l'actu nationale et locale. Mélanie Dallois, coordinatrice du Tympan, nous présente les événements poulet frit.
Le Tympan organise régulièrement les poulets frits, des sessions qui laissent place à l'imagination, au rythme, aux esthétiques et surtout à l'improvisation. Il y en aura d'ailleurs un le 19 mars prochain à la yourte du Tympan. Dans un premier temps, d'où nous vient cette pratique que l'on appelle plus couramment des bœufs ou des jam sessions?
Effectivement, le bœuf ou le jam, c'est une pratique qui est, j'allais dire, quasi incontournable pour les musiciens de jazz. Mais justement, quand on parle de bœuf ou de jam, ça reste un peu en concernant l'esthétique jazz, c'est-à-dire qu'on va se regrouper autour de standards de jazz, de musiques qui sont tombées dans le patrimoine commun et dans le et en fait les musiciens vont décider on va jouer là Autumn Leaves, Someday My Prince Will Come, voilà, et ils vont se mettre à jouer d'après une partition d'un standard. Et l'idée au Tympan, c'est de se dire que le jazz, c'est beaucoup plus que ça. C'est, il y a des notions, ça véhicule des valeurs qui sont vraiment géniales, comme la liberté, mais aussi et surtout la mixité, le mélange. Et ce qu'on dit, c'est que les partitions peuvent être un frein à beaucoup de gens qui pratiquent la musique d'oreille. Et c'est pas du tout une critique ou un jugement de valeur. C'est une autre manière d'aborder la musique. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé les poulets frits, parce que un poulet frit, en vrai, ça n'existe pas, juste au Tympan. Donc, le principe du poulet frit, c'est de se dire, les musiciens, enfin, on a une section rythmique, en général composée de jazzeux, qui vont poser un groove, poser un rythme, et dessus, on va inviter des gens qui ne sont pas forcément issus du jazz. Et c'est ça qui fait la richesse des poulets frits.
Et justement, qui peut participer, du coup, à ces poulets frits?
Eh bien, tout le monde. C'est-à-dire que, donc, il y a les musiciens, évidemment, des gens, des guitaristes, des bassistes, des solistes aussi, donc saxophonistes, trompettistes, et aussi et surtout des gens qui peuvent chanter ou déclamer ou slammer ou déclamer même des poèmes ou, voilà, des gens qui écrivent des textes ou qui ont envie de redire des textes d'autres. Tout ça, c'est possible. Et, pas forcément, donc dans l'esthétique jazz, c'est une esthétique un peu plus large qui fait jazz avec autre chose.
Et comment ces sessions improvisées, elles témoignent de l'histoire même du jazz?
Le principe du jazz, c'était, en fait, bon, je vais parler un peu de musique, je vais rentrer dans la construction un peu des morceaux de jazz. Un morceau de jazz, en vrai, la mélodie des morceaux de jazz est un prétexte à l'improvisation, déjà à la base. C'est-à-dire que, en fait, on va faire tourner une grille, c'est-à-dire un morceau, la mélodie, le refrain, et on revient sur la mélodie, puis après on revient en haut, voilà, et on fait ça tout le temps. Sur un morceau, ça fait une espèce de boucle, et donc il y a le thème, c'est là où il y a la mélodie, le refrain, et la mélodie. Et en fait, après qu'on a joué ça, eh ben on improvise. Et donc l'improvisation est c'est une appropriation du matériel musical typique au jazz. Et les buffs, c'est ça. En fait, c'est le prétexte à jouer ensemble. C'est le prétexte de se dire bon bah on va changer d'atmosphère. On va avoir un morceau qui est plus triste, un morceau plus gai, un morceau plutôt tendu, tout ça. Et ça permet en fait d'avoir une base d'improvisation et de partage pour parler de l'histoire. En vrai, les musiciens à la base, quand c'était donc les Afro-Américains, ils savaient pas lire la musique et ils se retrouvaient comme je sais pas à Congo Square, là, à Nouvelle-Orléans, et ils improvisaient en fait. On joue ensemble, on sort le djembé parce que c'était des esclaves à la base aussi. On sort et donc qui venaient d'Afrique, qui sont venus avec leurs matériaux, leurs connaissances de la musique. On vient, on joue et on crée ensemble quelque chose qui n'existait pas il y a 5 minutes en fait. Et le buff, c'est juste l'héritage de tout ça. Et c'est aussi l'héritage de on se met en rond, il y a de la musique, on danse, et pareil, improvisation de danse. Enfin, c'est vraiment, on est dans cette histoire-là, en vrai.
Et ça permet donc d'étendre les valeurs de partage, de liberté, dont vous parliez tout à l'heure, à toutes et tous.
Ah bah oui, complètement, parce que aussi bien au public qu'aux musiciens qui participent à la jam. Alors comme je disais, quand on participe à un buff, il faut avoir un peu plus de codes musicaux, parce que on travaille autour de partitions. Mais sur les pouletteries, il suffit d'avoir des oreilles. Et en fait, ça suffit. Comme dans la plupart des temps, en fait, la musique, il suffit d'avoir des oreilles, de se détendre et d'y aller. Et puis voilà, quoi. Et pour le public, pareil, le partage, il est que on est dans une yourte, petit espace. Souvent, les musiciens font participer le public aussi pour chanter, pour taper dans les mains, pour discuter. Donc oui, on est vraiment, vraiment là-dedans quand on fait les bœufs et les pouletteries.
Et qu'est-ce que vous diriez à nos auditoristes pour les inviter à assister au prochain Poulet Frit qui aura lieu, je le rappelle, le 19 mars à la Yourte ?
Eh bien, ça va être juste génial parce qu'on va avoir une section rythmique qui va nous donner envie de nous trémousser, qui va être vraiment incroyable. Donc là, c'est Romain Poisson qui est un batteur qui va diriger la session. Et on aura, je pense, pas mal de bons musiciens pour accompagner Romain. Et voilà, il faut venir parce que c'est sympa, parce que c'est original, parce qu'on est bien accueillis, parce qu'il y a notre trésorière qui fait des soupes et des tartines, et que donc si on a faim, on peut venir manger dans la yourte en écoutant la musique.
Et ben super, ça donne très envie en tout cas.
Ben super, tant mieux.
Merci beaucoup à Mélanie Dallois, coordinatrice du Tympan, d'avoir répondu au micro de Radio Toucan et d'avoir expliqué tout le concept autour des événements du poulet frit. C'est déjà bientôt la fin de notre émission, ça passe vite, je sais, mais restez encore un peu avec nous puisque Marie, qui est à la technique ce soir, a une petite reco pour vous.
La reco de la Téco.
La reco de la Téco.
Munissez-vous de votre plus belle tasse et rendez-vous au Centre socioculturel de Mondeville pour un spectacle doux et sensible proposé par la Compagnie des Cœurs Vaillants. Tisane et chocolat, c'est 1h30 de confidence du public mis en scène et joué en totale improvisation, par les 3 comédiens et comédiennes professionnelles Aurélia Asquat, Pamela Kenmer et Romain Cadoré. Un spectacle au croisement de l'intime, de l'émotion et du rire. Et pour être tout à fait transparente, j'avais assisté à la première édition de ce format de théâtre d'improvisation créé par la Compagnie des Cœurs Vaillants, une vraie pépite, alors foncez sans hésiter, seul ou en famille. Ce sera à retrouver samedi 14 mars à 20h30 au Carrefour socioculturel de Mondeville, donc. Et pensez bien à réserver vos places sur le Hello Asso de la compagnie.
Merci beaucoup Marie pour ta reco, j'espère que tu as motivé plus d'un de nos auditeurs et auditrices. Tu fais quoi de ton week-end toi Marie ce week-end ?
Eh bah écoute, justement ce week-end je vais aller voir la 2e édition de Tisane et Chocolat.
Ça tombe bien.
Parce que vraiment j'avais passé un super moment la dernière fois et donc je me suis dit bah vas-y let's go, on retourne voir la 2e. Et puis comme c'est du théâtre d'improvisation, ce qui est bien c'est que bah, c'est jamais les mêmes impros, c'est jamais la même histoire. Donc là je suis hyper hypée d'y retourner et j'ai déjà pris ma place.
Bah écoute, trop cool, moi petite sortie en ville je pense et puis repas de famille, donc ça,
sympa,
week-end tranquille,
sympa. Week-end en famille, on se repose aussi, ça fait du bien.
C'est ça.
De ralentir le rythme de la semaine.
Carrément. Notre émission touche déjà à sa fin, merci beaucoup d'avoir écouté celle-ci et merci Marie pour ta technique. Si vous souhaitez réécouter cette émission, vous pourrez la retrouver sur notre site radio-toucan.fr.